Chapitre 2e. La nouvelle donnée par Valentin de Bellegarde de l'émancipation définitive de Mademoiselle Nioche et ses réflexions irrévérencieuses sur l'attitude de son père dans une catastrophe si terrible pour lui furent confirmées par le retard que mit M. Nioche à rendre de nouveaux visites à son ex-élève. Il en avait coûté à Newman d'être forcé d'admettre la cynique interprétation de Valentin de la philosophie du vieillard, et quoique les circonstances semblassent indiquer qu'il ne s'était pas laissé aller à un noble désespoir, Newman, cependant, croyait possible qu'il éprouvât une réelle douleur. M. Nioche, d'habitude, lui rendait toutes les 2-3 semaines une respectueuse petite visite, et son absence aujourd'hui pouvait être aussi bien la preuve d'un extrême abattement que du désir de dissimuler la résignation avec laquelle il supportait son chagrin. Sur ces entrefaites, Newman apprit, de la bouche même de Valentin, quelques nouveaux détails de la nouvelle phase de la carrière de Mademoiselle Noémie. « Je vous ai dit que c'était une créature vraiment remarquable, » déclara cet observateur émérite. « La manière dont elle a manœuvré ne vous laissera aucun doute là-dessus. » Elle avait eu plusieurs occasions, mais résolue à ne choisir qu'à bon escient et dans les conditions les plus favorables, elle n'en profita pas. Elle vous a fait l'honneur de penser, pendant un temps, que vous remplissiez son programme. Mais vous ne vous êtes pas décidé. Alors, elle s'est armée de patience et a attendu encore. Enfin, une chance exceptionnelle s'est offerte, et elle l'a saisie avec une incroyable sûreté de main. Je suis parfaitement sûr qu'elle n'avait pas d'innocence à perdre, mais du moins, elle a sauvé les apparences, et quelle que soit notre opinion sur la demoiselle, il faut lui rendre justice, elle a toujours tenu à ne pas faire de scandale. Rien ne saurait être prouvé contre elle, et elle était déterminée à ne pas se perdre de réputation tant qu'elle n'aurait pas trouvé d'équivalent. Sur cet équivalent, elle avait de grandes prétentions. Apparemment, son idéal a été satisfait, il a 50 ans, il est chauve et sourd, mais tout à fait coulant sur la question d'argent. « Où diable avez-vous recueilli ces importantes nouvelles ?» demanda Newman. « En causant, vous le savez, j'ai des habitudes de flâneur, en causant avec une jeune femme qui se livre à l'humble commerce du nettoyage des gants et tient une petite boutique dans la rue Saint-Roch. Monsieur Nioche demeure dans la même maison, au 6e étage, au fond de la cour. C'est là que papillonne Miss Noémie depuis 5 ans. Je connaissais de longue date la petite nettoyeuse de gants, qui a été l'amie d'un de mes camarades marié aujourd'hui. Je l'ai vue souvent chez mon ami. En l'apercevant ces jours derniers derrière les vitres de sa boutique, je l'ai reconnue tout de suite, et quoique mes gants fussent d'une propreté irréprochable, je n'hésitais pas à entrer et lui tendis les mains en disant « Chère demoiselle, que me prendrez-vous pour nettoyer ces gants-là ? » Cher comte, répondit-elle immédiatement, je vous les nettoierai pour rien. Elle aussi m'avait reconnue, et je dus subir le récit de son histoire depuis ces 6 dernières années. Après quoi, à mon tour, je la mis sur le chapitre de ses voisins. Elle connaît et admire Noémie et m'a appris ce que je viens de vous répéter. Un mois se passa sans que M. Nioche reparût ou donnât de ses nouvelles. Newman, qui chaque matin lisait dans les journaux 2 ou 3 suicides, commençait à croire que, réduit au désespoir, il avait cherché dans les eaux de la Seine un baume pour son orgueil blessé, et un jour, se trouvant dans le quartier Saint-Roch, il se décida à éclaircir ses doutes. Comme il arrivait à la maison indiquée, il remarqua la boutique dont Valentin lui avait parlé, et derrière une rangée de gants nettoyés, se balançant sur une corde, la physionomie attentive d'une jeune femme en robe de chambre, l'œil fixé sur la rue, comme si elle s'attendait à voir passer de nouveau son aimable ami, le gentilhomme. Ce ne fut pas à elle, cependant, que s'adressa Newman. Il demanda tout simplement à la portière de la maison si M. Nioche était chez lui. La portière répondit, comme répondent invariablement toutes les portières, que son locataire venait à peine de sortir. Il y avait 3 minutes, tout au plus. Monsieur ne l'avait-il pas rencontré? Puis, prenant à travers la petite ouverture carrée de sa loge la mesure de la fortune de Newman, et supposant par une sorte d'instinct que l'intérêt des locataires du 6e sur la cour était en jeu, elle indiqua, comme probable, la présence de M. Nioche au café de la Patrie, à l'angle de la 2e rue à gauche, où il passait d'habitude tous ses après-midi. Newman hésita un moment avant d'entrer au café de la Patrie. N'était-ce pas indiscret, de sa part, de suivre ainsi le pauvre vieux Nioche? Y avait-il bien le droit de le surprendre, sirotant lentement son verre d'eau sucrée et oubliant ses chagrins ? Bah, qu'importait, après tout. Il ouvrit la porte et entra. Aveuglé d'abord par un nuage épais de fumée de tabac, il aperçut cependant, à travers ce nuage, dans un coin du café, M. Nioche en personne, installé à une table, devant un gros chaud en compagnie d'une dame assise en face de lui. La femme tournait le dos à Newman, mais M. Nioche le vit et le reconnut immédiatement. Il se leva, en le regardant avec une expression plus humble que d'habitude. « Du moment que vous buvez du punch, » dit Newman, « c'est que vous n'êtes pas mort. Tout va bien. Ne vous dérangez pas. » M. Nioche restait là, comme hébété, la bouche béante, n'osant pas tendre sa main. La dame se retourna vivement, c'était Mademoiselle Noémie. Elle lança à Newman un regard pénétrant, pour se rendre compte de ses dispositions à son égard, et fut probablement rassurée, car elle s'écria de son air le plus gracieux. « Comment allez-vous, monsieur? Voulez-vous une place dans notre petit coin ?»« Êtes-vous venu pour moi ?» demanda doucement M. Nioche. « J'étais chez vous pour m'assurer de ce que vous deveniez. Je craignais que vous ne fussiez malade. »« C'est bien de la bonté de votre part, comme toujours. Non, je ne me porte pas bien, je suis malade. »« Demandez à monsieur de s'asseoir, » dit Mademoiselle Nioche. « Voulez-vous nous faire l'honneur de vous asseoir ?» répéta timidement le vieillard. Newman se dit qu'il ferait mieux de tirer la chose au clair. Il avança une chaise et s'assit entre le père et la fille. « Vous prendrez quelque chose avec nous, n'est-ce pas ? Cela va sans dire, » fit Mademoiselle Noémie, qui avait devant elle un verre de madère. Sur le refus de Newman, elle se tourna vers son père en souriant. « Quel honneur, hein ? Il n'est venu que pour nous. » M. Nioche but une longue gorgée de grog en regardant par-dessus son verre d'un air mélancolique. « Mais vous n'êtes pas venu pour moi, hein ? » continua Mademoiselle Nioche. « Vous ne vous attendiez pas à me trouver ici. » Newman remarqua le changement qui s'était opéré en elle depuis leur dernière rencontre. Fort élégante et plus charmante que jamais, elle paraissait de 2 ou 3 ans plus âgée, et il était visible qu'en apparence, elle n'avait fait que gagner comme respectabilité. Elle avait l'air d'une véritable lady. Elle portait sa riche toilette, de couleur tranquille, d'une simplicité de bon goût, avec la grâce d'une femme habituée dès longtemps au luxe. Sa possession d'elle-même et son aplomb semblèrent à Newman vraiment étonnants. Décidément, Valentin de Bellegarde ne se trompait pas. Cette jeune fille était tout à fait remarquable. « Non, pour dire la vérité, ce n'est pas pour vous que je suis venu, et je ne m'attendais pas à vous trouver ici. On m'avait assuré que vous aviez abandonné votre père. »« Quelle horreur ! » s'écria Mademoiselle Nioche. « Est-ce qu'on abandonne son père ? Vous avez la preuve du contraire. »« Oui, une preuve irréfutable, » répliqua Newman en lançant un coup d'œil à M. Nioche. Le pauvre vieux, troublé, mal à l'aise, porta à ses lèvres son verre vide pour s'éviter de répondre. « Qui vous a renseigné ?» demanda Noémie. « Oh, je le sais fort bien. Allez, c'est M. de Bellegarde. Pourquoi ne pas l'avouer ? Vous n'êtes pas poli. » « Je suis embarrassé, » dit Newman. « Je serai plus franche que vous. Oui, M. de Bellegarde vous a mis au courant. Il en sait long à mon sujet, ou croit savoir. » Il s'est donné beaucoup de peine pour connaître la vérité, mais la moitié de ce qu'on lui racontait n'est pas vrai. D'abord, je n'ai pas quitté mon père. Je l'aime trop pour ça, n'est-ce pas, petit père? Monsieur de Bellegarde est un charmant garçon. Il est impossible d'être plus fin. Oh, j'en sais beaucoup aussi sur son compte. Vous pouvez le lui répéter de ma part quand vous le verrez. Non, dit Newman d'un ton bourru. Je ne me charge d'aucune commission de votre part. Tout comme il vous plaira. « Je ne dépends ni de vous ni de M. de Bellegarde. Il s'intéresse fort à moi, ce jeune homme. On peut le laisser à ses propres inspirations. Il ne vous ressemble guère. »« Oh, il y a en effet une grande différence entre lui et moi, je n'en doute pas. Mais comment l'entendez-vous »« D'une manière bien simple. D'abord, pour commencer, il ne m'a jamais offert de me procurer une dot et un mari. » Mademoiselle Nioche s'arrêta un instant. « Je ne prétends pas que cela milite en sa faveur et je vous rends justice à vous. » Par parenthèse, qu'est-ce qui vous a donc porté à me faire une offre si étrange ? Vous vous moquez bien de moi. Tout au contraire, dit Newman, je vous portais le plus grand intérêt. En quoi ? J'aurais éprouvé un réel plaisir à vous voir épouser un respectable jeune homme. Avec 6 000 francs de revenus, n'est-ce pas ? Si c'est là ce que vous entendez par me porter intérêt. Vous connaissez peu les femmes, j'en ai peur. Vous n'avez pas été galant. Vous n'avez pas été ce que vous auriez pu être. » Newman rougit outrageusement. « Allons, » s'écria-t-il, « c'est un peu fort. Je ne croyais pas m'être si mal conduit envers vous. » Mademoiselle Nioche prit son manchon en souriant. « C'est toujours quelque chose de vous faire mettre en colère. » Son père, les deux coudes sur la table, la tête enfoncée dans les mains, ses doigts maigres et ridés pressés contre ses oreilles, regardait d'un air abruti le fond de son verre et Newman supposa qu'il ne pouvait entendre. Mademoiselle Noémie boutonna son pardessus garni de fourrure et, repoussant du pied sa chaise, lança un regard plein de la conscience de sa haute valeur, d'abord au pli de sa robe, puis à Newman. « Vous auriez mieux fait de rester une honnête fille, » dit celui-ci. Monsieur Nioche regardait toujours le fond de son verre. Noémie se leva. « Voulez-vous dire que je n'ai pas l'air honnête ? En ce cas, je suis comme bien des femmes aujourd'hui. Attendez avant de me juger. Je veux réussir, et je réussirai. Je n'ai pas d'autre ambition. Je vous quitte. Il ne me convient pas d'être vu dans les cafés par parenthèse. Je ne m'explique pas ce que vous voulez de mon pauvre père. Il est tout à fait à son aise maintenant, et puis rien de tout cela n'est de sa faute. Adieu, petit père. » Elle lui donna deux ou trois petits coups de son manchon sur la tête, puis, regardant Newman en face, « Dites à monsieur de Bellegarde que lorsqu'il désirera de mes nouvelles, il vienne me les demander à moi-même. » Sur ces derniers mots, elle sortit du café, dont le garçon lui ouvrit la porte toute grande en saluant. Monsieur Nioche ne bougeait pas. Le pauvre homme semblait absolument hébété. Newman ne savait que lui dire. « De sorte que vous êtes décidé à ne pas la tuer, après tout, » commença-t-il enfin. Monsieur Nioche, toujours immobile, leva les yeux et fixa sur lui un long regard, d'une étrange expression. Il semblait tout avouer, et cependant ne pas demander de compassion sans pour cela avoir la prétention de pouvoir s'en passer. On aurait dit un insecte inoffensif, plat de forme et conscient de l'imminente pression d'un talon de botte, que son instinct avertit qu'il est peut-être trop plat pour être écrasé. Le regard de Monsieur Nioche était un aveu de platitude morale. « Vous me méprisez terriblement, n'est-ce pas ? » dit-il du ton le plus humble. « Ma foi, non, » répondit Newman, « ce n'est pas là mon affaire. C'est un bon parti que de prendre les choses avec philosophie. Je vous ai fait tant de belles professions de foi, je les pensais dans ce temps-là. Je suis heureux, je vous assure, que vous ne l'ayez pas tué. Je craignais aussi quelque acte de désespoir contre vous-même. C'est pour cela que je me suis inquiété de vous. » Il se mit à boutonner sa redingote. « Ni l'un ni l'autre, » dit M. Nioche. « Vous me méprisez, et je ne puis rien vous expliquer. J'espérais ne vous revoir jamais. » « Pourquoi ? Ce n'est pas bien de négliger ainsi ses amis. De plus, la dernière fois que vous êtes venu chez moi, je vous avais trouvé particulièrement de bonne humeur et dans d'excellentes dispositions. « Oui, je m'en souviens, » répondit le vieillard d'un ton rêveur. « J'avais la fièvre. » Je ne savais ni ce que je disais, ni ce que je faisais. C'était le délire. Ah, très bien. Vous êtes plus calme maintenant. Monsieur Nioche garda un instant le silence. Aussi calme que la tombe. Êtes-vous vraiment très malheureux? Le pauvre vieux se gratta lentement le front, en poussant sa perruque un peu en arrière et regarda d'un œil vitreux son verre vide. Oui, oui, très malheureux. Mais c'est de l'histoire ancienne. J'ai toujours été malheureux. Ma fille fait de moi tout ce qu'elle veut. Je prends ce qu'elle me donne, bon ou mauvais. Je n'ai pas d'énergie. Et quand on n'a pas d'énergie, on est calme. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. » « Très bien, » dit Newman, légèrement dégoûté de ce naïf aveu d'indifférence. « Comme il vous plaira. » Monsieur Nioche semblait s'attendre à ce mépris. Néanmoins, il fit un faible appel à l'indulgence de Newman. « Après tout, » dit-il, « elle est ma fille. Et je puis encore veiller sur elle. Si elle tourne mal, « eh bien, tant pis. Mais il y a bien des degrés dans le mal, il y a des nuances. Je dois la faire profiter, la faire profiter. » Il s'arrêta de nouveau, regardant vaguement son ex-élève qui commençait à le soupçonner de n'avoir pas tout à fait sa tête. « La faire profiter de mon expérience. »« De votre expérience ?» demanda Newman étonné. « Quelle expérience ?»« Mon expérience des affaires, » dit l'autre d'un ton grave. « Ah oui !» s'écria Newman en éclatant de rire. « Ce serait en effet pour elle un grand avantage. Allons, adieu, monsieur Nioche. » Il tendit la main au pauvre vieux fou. Monsieur Nioche la prit et la retint un moment dans les siennes en s'appuyant contre le mur. « Vous croyez que mes facultés baissent, n'est-ce pas » dit-il. « Peut-être. Je sens toujours une douleur dans la tête. C'est ce qui m'empêche de vous dire, de vous expliquer. Et puis, elle est si forte, ma fille. Elle me fait marcher comme un tonton, comme elle veut. Mais cela... Il s'arrêta encore, regardant toujours Newman fixement. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange. On aurait dit ceux d'un chat dans l'obscurité. « Ah, ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne lui ai pas pardonné, oh non. »« Vous avez raison, ne lui pardonnez pas. C'est bien dur pour vous. »« C'est horrible, c'est terrible !» continua M. Nioche. « Tenez, voulez-vous savoir la vérité ? Je la hais. J'accepte ce qu'elle me donne, et je la hais encore davantage. Aujourd'hui, elle m'a rapporté 300 francs. Ils sont là, dans la poche de mon gilet. Eh bien, je la hais presque férocement. Non, je ne lui ai pas pardonné. Pourquoi acceptez-vous l'argent ? Si je ne l'avais pas pris, je l'aurais haï plus encore. C'est là, mon malheur. Non, je ne lui ai pas pardonné. Prenez garde de ne pas la froisser, dit Newman en riant. Sur ce, il partit, et pour tout de bon, cette fois. Comme il passait devant la devanture vitrée du café, dans la rue, il aperçut M. Nioche appelant d'un geste mélancolique le garçon pour une nouvelle consommation. Quelques jours après, Newman alla rendre visite à Valentin de Bellegarde. Il lui parla de son entrevue avec M. Nioche et Mademoiselle Noémie. « Vous aviez, je crois, bien jugé le bonhomme. Sa sévérité est purement théorique. » Il trinquait tranquillement avec sa fille, en toute amitié. J'ai été désappointé, je l'avoue. J'aurais pensé que M. Nioche avait pris les choses de haut. De haut, cher ami, répondit en riant Valentin. M. Nioche ne prendra jamais rien de haut. Il m'a assuré, sur ma parole, qu'il ne lui avait pas pardonné, mais elle ne s'en apercevra jamais. Faisons-lui la grâce de croire qu'il n'est pas enchanté de la chose, reprit Valentin. Mademoiselle Nioche est... comme ces grandes artistes dont nous lisons les biographies. Au commencement de leur carrière, elles ont toutes, invariablement, à lutter contre l'opposition de leur famille. Leur vocation n'est jamais reconnue dans le cercle intime, mais le monde leur rend justice. Mademoiselle Noémie a une vocation. « Oh, voyons !» s'écria Newman, impatienté. « Vous la prenez trop au sérieux. Tout cela me paraît bien modeste. »« Je le sais. Mais à défaut de mieux, il faut bien se contenter du peu que l'on trouve. Il vaut mieux, j'imagine, être sérieux à propos des petites choses que de ne pas l'être du tout. Le modeste bagage de Mademoiselle Nioche m'intéresse. Elle s'en est bien aperçue. Elle sait que vous vous êtes occupé d'elle, et ne m'avez pas épargné les questions à son sujet. Elle en est très flattée, c'est assez ennuyeux. Ennuyeux, mon cher ami, pas le moins du monde. Le diable m'emporte, si je désirais qu'une satanée petite aventurière comme celle-là sût que je m'inquiète d'elle. Une jolie femme mérite toujours qu'on s'en occupe. Quant à moi, je suis heureux que Mademoiselle Nioche soit flattée de ma curiosité, et sache que je suis flatté de ce qu'elle est flattée. Elle n'est pas si flattée que cela, par parenthèse. Vous feriez mieux d'aller le lui dire vous-même. Elle m'avait chargé d'une commission dans ce genre-là pour vous. 1000 remerciements de vous en souvenir. J'étais la voir 3 fois en 5 jours. C'est une charmante hôtesse. Nous avons parlé de Shakespeare et de poésie. Elle est fort instruite. C'est un type vraiment curieux, pas du tout commune. Des prétentions aux bonnes manières, déterminée à être comme il faut, elle est tout à fait parfaite. Aussi dure, aussi nettement taillée qu'une petite figurine de nymphe dans un camée antique. Et je jurerais qu'elle n'a pas plus de sensibilité ou de cœur que s'il avait été creusé dans une améthyste. Vous ne pourriez l'entamer même avec un diamant. Extrêmement charmante. Non, vraiment, quand vous la connaîtrez, elle est étonnamment charmante. Intelligente, décidée, ambitieuse, sans scrupules, capable de voir un homme se tuer pour elle sans changer de couleur, elle est, sur mon honneur, extrêmement amusante. Voilà une jolie querelle d'attraction, s'écria Newman. En croirait entendre un agent de police donner le signalement de quelques criminels de mérite. Je qualifierais, quant à moi, toute cette charmante qualité d'un autre mot qu'amusante. Pourquoi ? C'est l'expression juste, dit Valentin. Je ne dis pas que la demoiselle soit digne d'éloge ou digne d'être aimée. Je ne la désirerais ni comme mère ni comme sœur. Mais c'est une femme vraiment curieuse, une jolie pièce de mécanique. J'aimerais la voir en mouvement. Très bien. J'ai vu moi aussi quelques machines curieuses, riposta Newman. Et un jour, dans une fabrique d'aiguilles, j'ai vu un monsieur de la ville qui, s'étant trop approché de l'une d'elles, a été enlevé aussi proprement que s'il eût été embroché par une fourchette. englouti sans avoir même eu le temps de pousser un cri et réduit en poudre. La semaine suivante, Newman, en rentrant chez lui le soir, trouva sur sa table une carte de respectable dimension annonçant que la marquise de Bellegarde serait chez elle le 27 courant à 10 heures du soir. Il l'attacha au cadre de la glace d'un air satisfait. Cela lui semblait un agréable emblème de son triomphe, une preuve manifeste du gain définitif de sa cause. Installé tout à son aise dans un fauteuil, il regardait avec amour cette bienheureuse carte quand Valentin de Bellegarde entra. Les yeux du jeune homme suivirent machinalement la direction de ceux de Newman et il aperçut l'invitation de sa mère. « Et qu'ont-il mis dans le coin de la carte ? » demanda-t-il. « Comment ? » Pas comme d'habitude, musique, danse ou tableau vivant. Ils auraient dû au moins annoncer un Américain. Oh, il y en aura quelques-uns, répondit Newman. Madame Tristram m'a dit aujourd'hui avoir reçu son invitation et avoir déjà envoyé son acceptation. Ah, alors avec Madame Tristram et son mari, vous serez en force. Ma mère aura pu mettre sur la carte 3 Américains. Mais j'imagine que vous aurez de quoi vous amuser. Vous verrez là un grand nombre des gens les plus huppés de France, je veux dire, des vieux blasons et des grands airs. Quelques-uns d'entre eux sont de terribles idiots. Je vous conseille de ne les approcher qu'avec les plus grandes précautions. « Oh, je suis sûr qu'ils me plairont, » dit Newman. « Je suis disposé à trouver tout bien, hommes et choses. Jamais je n'étais de si belle humeur. » Valentin le regarda un instant sans répondre, puis se laissa tomber dans un fauteuil avec un air de lassitude extraordinaire. « Heureux homme !» fit-il en soupirant. « Prenez garde de ne pas devenir irritant. S'il plaît à quelqu'un de sentir irrité, il en a le droit. J'ai la conscience tranquille. Alors, décidément, vous êtes vraiment amoureux de ma sœur ?»« Oui, monsieur, » dit Newman après une pause. « Et elle ? Je crois qu'elle m'aime. Quel sortilège avez-vous donc employé ?» demanda Valentin. « Comment faites-vous la cour ?»« Oh, je n'ai pas de principes arrêtés. En tout cas, je les crois acceptables. »« Je n'en doute pas. Encore faut-il les connaître. Vous êtes un homme étonnant. Vous marchez avec des bottes de 7 lieues. »« Ah ça, qu'est-ce que vous avez ce matin ? Vous me semblez tout drôle. Vous êtes vicieux. Épargnez-moi vos folies jusqu'à mon mariage. Alors, complètement heureux et pour la vie, je serai plus disposé à prendre les choses comme elles viendront. Et à quand le mariage ? Dans 6 semaines environ. » Valentin parut réfléchir. Et vous avez confiance en l'avenir ? Fit-il tout à coup. Tout à fait confiance, répondit Newman sans hésiter. Je savais ce que je désirais et je sais ce que j'ai choisi. Vous êtes sûr d'être heureux ? Sûr ? Dit Newman. Une question aussi extravagante demande une réponse extravagante. Oui. Rien ne vous effraie. De quoi serais-je effrayé? Que peut-on contre moi? À moins d'employer la violence pour me tuer. Cela, par exemple, je le considérerais comme une mauvaise farce. Je veux et j'entends vivre. Je ne peux pas mourir de maladie, je suis trop ridiculement fort. Quant à mourir de vieillesse, j'ai encore le temps d'y penser. Je ne perdrai pas ma femme. Je prendrai trop soin d'elle. Je perdrai peut-être ma fortune ou une grande partie de ma fortune, mais que m'importe? Je la referai, et 2 fois plus considérable. De quoi aurais-je donc peur? Vous n'avez pas peur que ce ne soit une erreur, pour un Américain, homme d'affaires, d'épouser une comtesse française? Pour la comtesse, c'est possible, mais non pour l'homme d'affaires, si c'est de moi que vous voulez parler. Ma comtesse, en tout cas, ne sera pas désappointée. Je réponds de son bonheur. Et comme s'il éprouvait le besoin de célébrer son heureuse certitude par un feu d'artifice, il se leva et jeta 2 bûches dans le feu déjà ardent. Valentin suivit quelques moments des yeux la flamme de plus en plus brillante, et alors, la tête appuyée sur la main, il poussa un mélancolique soupir. « Vous avez la migraine ? » demanda Newman. « Je suis triste. » « Du vague à l'âme, hein ? » « Est-ce à propos de la dame que vous nous avez dit l'autre jour adorer et ne pouvoir épouser ? Ai-je réellement dit cela ?» Il m'a semblé en effet que ces mots m'avaient échappé. Devant Claire, c'était de mauvais goût, mais j'étais en ce moment-là dans mes humeurs noires, et j'y suis encore. « Pourquoi m'avez-vous fait connaître cette fille ?»« Oh, c'est de Noémie qu'il s'agit, bonté divine. Vous ne prétendez pas, j'espère, languir d'amour pour elle ?» Languir d'amour, non. Ce n'est pas une grande passion. Mais la satanée petite diablesse me tient au cœur. Elle m'a mordu avec ses adorables quenottes. J'éprouve je ne sais quoi, comme si j'allais devenir enragé et commettre quelque chose d'insensé. C'est ignoble, c'est dégoûtant. Il n'y a pas en Europe de fille plus vénale, et cependant, elle me trouble, profondément. Elle ne me sort pas de la tête. C'est là, n'est-ce pas, un frappant contraste, avec votre noble et pur attachement, un vil contraste. C'est vraiment pitoyable que j'en sois arrivé là, et que je ne trouve rien de mieux à faire de ma respectable personne à mon âge, car en somme, je suis un charmant garçon, hein? Mais vous ne répondriez pas de mon avenir comme vous répondriez du vôtre. Laissez-la, cette fille. N'hésitez pas, mon cher, dit Newman. Ne la revoyez jamais, et votre avenir n'aura rien à craindre. Allez en Amérique, je vous y trouverai une place dans une banque. La laissez-la, c'est facile à dire, répondit Valentin avec un petit rire sec. On ne quitte pas comme ça une jolie femme. Il faut être poli, même avec Noémie. De plus, je ne voudrais pas qu'elle crût que j'ai peur d'elle. De sorte qu'entre la politesse et la vanité, vous vous enfoncerez de plus en plus dans la boue. Gardez-les toutes deux pour de plus nobles desseins. Souvenez-vous aussi que je ne voulais pas vous présenter à cette demoiselle. Vous avez insisté. J'avais je ne sais quel mauvais pressentiment. Oh, je ne vous reproche rien. Dieu m'en garde. Je ne voudrais pas pour tout au monde avoir manqué l'occasion de la connaître. Elle est réellement extraordinaire. La manière dont elle a déployé ses ailes et pris son vol est stupéfiante. Je ne crois pas qu'aucune femme m'ait jamais plus intéressée. Mais, excusez-moi, tout bien considéré, elle ne vous intéresse pas, vous, et le sujet est scabreux. Parlons d'autre chose. Valentin changea de sujet de conversation, mais 5 minutes après, Newman remarqua que par une impudente transition, il revenait à Mademoiselle Nioche, s'étendant sur ses faits et gestes et citant des bons mots qui, il faut l'avouer, pour une jeune fille naïve, tout entière, 6 mois auparavant, à la peinture des Madones et des Anges, étaient singulièrement spirituels et d'un incroyable cynisme. Cependant, à la fin, il s'arrêta, devint tout à coup pensif et garda pendant quelque temps le silence. Quand il se leva pour partir, il était évident que Mademoiselle Nioche occupait encore exclusivement ses pensées. « Oui, c'est un effrayant petit monstre, » dit-il en guise d'adieu à son amie.